Et voici le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Des réactions et des mesures tout azimut hier en France. Après l'assassinat terroriste de Samuel Paty, fermeture de la mosquée de Pantin, annonce de dissolution d'associations, parfois sans lien avec l'enquête. Pendant ce temps, beaucoup de professeurs s'interrogent comment enseigner la laïcité dans ce contexte sans se soumettre à une forme d'autocensure. Nous y reviendrons avec Arnaud Rozac.
Et puis, les réseaux sociaux sont également dans le collimateur du gouvernement dans ce drame. Ils n'y sont pourtant pour rien, estime Arthur Messeau de la Quadrature du Net. Nous l'entendrons.
À l'étranger, retour sur la situation des réfugiés dans le Haut-Karabakh et sur l'université de Liège en Belgique qui teste elle-même ses étudiants pour savoir s'ils ont le Covid. Après ce journal, Guillaume.
Eh bien, dans une dizaine de minutes, Anne-Laure, le couvre-feu face à la pandémie, que nous enseigne l'expérience guyanaise. Je poserai la question à Pascal Crépet. Il est enseignant-chercheur en épidémiologie et biostatistique à l'École des hautes études en santé publique à Rennes.
Le tueur de Samuel Paty a-t-il bénéficié de complicité directe ou indirecte? C'est sur cette question que se concentre désormais l'enquête de la police après le meurtre sauvage de ce professeur d'histoire géo. 15 personnes, dont 4 collégiens, étaient hier en garde à vue pour tenter de faire la lumière sur les circonstances du meurtre. Les réactions, elles, n'ont pas cessé et ont donné lieu à des décisions et des annonces parfois polémiques, notamment celle du ministre de l'Intérieur de fermer la mosquée de Pantin, qui avait relayé des messages critiquant le professeur. Autre annonce du ministre de l'Intérieur, des opérations de police lancées dans des associations n'ayant pas de lien avec l'enquête. Ceci pour, je cite, faire passer un message. Enfin, Gérald Darmanin a précisé que plusieurs d'entre ces associations seront dissoutes en Conseil des ministres, notamment le collectif contre l'islamophobie en France et l'association humanitaire Baraka City. Aujourd'hui, les hommages se poursuivent en mémoire de Samuel Paty. Une marche blanche est organisée ce soir devant le collège où il enseignait à Conflans-Sainte-Honorine. Et puis, il y a cette question sur laquelle vous reviendrez ce matin avec vos invités, Guillaume. Comment parler de laïcité à l'école? Beaucoup de professeurs du premier et second degré se posent régulièrement cette question, avec le risque, dans le contexte actuel, de se soumettre à une forme d'autocensure. Le reportage d'Arnaud Rozac.
Dans un sondage IFOP publié en juin 2018, sur 1500 professeurs interrogés, plus d'un tiers avouent s'être déjà auto-censuré en classe pour éviter un incident. Charlotte enseigne l'histoire géo dans un lycée du département de l'Essonne, en banlieue parisienne. Elle fera sa rentrée le 2 novembre avec un cours d'EMC, l'éducation civique et morale.
On ne peut pas repartir comme s'il n'y avait rien eu. Je vais changer en fait complètement mon fusil d'épaule. Autrement dit, j'avais un cours qui était déjà prêt, je sais exactement où j'en suis, etc. Pendant les vacances, je vais le reprendre pour vraiment axer sur la liberté d'expression et je vais partir aussi en fait sur la liberté de croyance.
Et ce, même si Charlotte est gênée pour aborder les questions religieuses en classe, pour elle, cela n'a pas sa place à l'école. Mais cette trentenaire peut y être confrontée lors des cours d'éducation civique et morale qui sont assurés la plupart du temps par des professeurs d'histoire géo à l'image de Samuel Paty. Selon Charlotte, les professeurs n'ont pas les outils pour s'emparer de ces thématiques, ce qui a pour effet déjà une forme d'autocensure.
Dans les faits, l'EMC, j'en ai traité, j'ai dû avoir une journée de formation et c'est tout. Il n'y a pas de licence d'enseignement moral civique en fait. Il n'y a pas de fac d'EMC. Il y a, si vous voulez, tout ce que nous on apprend, en fait, on l'apprend sur le tas.
Depuis les attentats de janvier 2015, il existe des référents laïcité dans les INSPE, les centres de formation de professeurs. Ismaël Ferrat occupe ce poste à l'INSPE d'Amiens, en Picardie.
Il est important qu'à un moment, soit de la formation initiale, mais aussi, on le dit trop souvent, de la formation continue, soit aborder les questions à la fois de laïcité, pour en parler de manière dépassionnée, et pouvoir répondre à d'éventuelles contestations de cours pour origine religieuse ou idéologique.
Pourtant, toujours selon l'IFOP, sur 1500 professeurs, seulement 6% affirment avoir déjà bénéficié d'une formation continue sur la laïcité.
Autre dimension de cet attentat, le rôle qui aurait joué les réseaux sociaux. À ce propos, les représentants de Google, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok doivent être reçus ce matin par Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté. L'identité de Samuel Paty avait en effet été dévoilée via les réseaux sociaux permettant son identification par le tueur. En juin dernier, le Conseil constitutionnel avait retoqué la fameuse loi Avia, loi qui proposait une régulation beaucoup plus stricte des contenus haineux en ligne, mais jugée contraire à la liberté d'expression par le Conseil constitutionnel. Selon Arthur Messeau, juriste à la Quadrature du Net, dans le cas de cet attentat, la régulation des réseaux sociaux n'est pas le sujet.
Le gouvernement ne peut rien demander à Google, Facebook ou Twitter qui aurait évité le meurtre de la semaine dernière. Il n'y a rien de possible. Ce meurtre-là n'a pas grand-chose à voir avec la régulation des réseaux sociaux, c'est des sujets complètement différents. Parce qu'en vrai, avec le droit actuel tel qu'on l'a, on aurait très bien pu signaler cette dénonciation faite par ses parents d'élèves. On aurait pu le dénoncer à Twitter, à Facebook. Et Facebook, dès aujourd'hui, hein, dès le droit actuel, est obligé de le retirer, de retirer ce contenu, cette vidéo, s'il est manifestement illicite. Finalement, l'espace, elle n'est pas manifestement illicite. Il n'y a rien à faire, elle n'est même probablement pas illicite. Donc je vois pas, on ne voit pas quel type de loi aurait pu changer quoi que ce soit. C'est vraiment pas le sujet. On va pas faire une loi pour empêcher les gens de critiquer Macron, pour empêcher les gens de critiquer la police, pour empêcher les gens de se critiquer les uns les autres. C'est une loi comme ça, ce serait une loi qui viserait simplement à fermer Internet. Alors si c'est ça leur projet, qu'ils le disent clairement, et je pense que la population s'y opposera, mais si c'est pas fermer Internet leur projet, il n'y a rien de sérieux. On va pas empêcher les gens de se critiquer. C'est triste, hein, les gens, des fois, ils se critiquent jusqu'à en venir aux mains et à la mort, et c'est regrettable, mais c'est pas la faute d'Internet, ça.
Arthur Messot, interrogé par Laura Dulieu, il sera l'un des invités du temps du débat ce soir à 18h20. L'autre actualité française, ce sont toujours les cas de Covid-19 qui ne cessent de battre des records depuis le mois de mai dernier. Plus de 2000 patients sont en réanimation, 146 personnes sont mortes en France ces dernières 24 heures. La situation n'est pas plus glorieuse ailleurs en Europe. On apprenait hier que l'Irlande et le Pays de Galles vont reconfiner l'ensemble de leur population avec plus de 8000 morts recensés en 7 jours, l'Union européenne connaît son plus lourd bilan en une semaine depuis la mi-mai. En Autriche et en Italie, de nouvelles restrictions sont à l'œuvre également. Enfin, en Belgique, les cafés et restaurants sont fermés, un couvre-feu est institué. Et pour lutter contre la propagation de l'épidémie, l'université de la ville de Liège a mis au point un dispositif inédit. Des dizaines de milliers de kits d'auto-prélèvement sont mis à la disposition des étudiants et du personnel de l'université. Des tests fabriqués en Belgique qui utilisent une méthode particulière, le reportage de notre correspondant en Belgique, Jérémy Audouard.
À l'entrée d'un bâtiment de l'université, deux volontaires distribuent des kits.
Bonjour.
Florian et Léna sont venus retirer un test.
C'est mis à disposition dans le bâtiment même, donc c'est quand même assez pratique pour ceux qui travaillent ici. On n'a pas besoin de se déplacer, etc. Donc c'est plutôt pratique. Ouais.
On travaille en équipe ici, on est toujours les uns avec les autres, et donc c'est pour essayer de limiter le risque pour tout le monde en fait.
Victoria, qui tient l'un des stands, souligne qu'avec ce kit d'auto-prélèvement, pas besoin d'infirmière.
Donc ici, on a une petite boîte avec trois compartiments stériles et un entonnoir pour cracher. Et après, on amène le prélèvement avec ici le bouchon bleu et on le remet dans l'urne ici, dans les 12 heures du prélèvement.
Des stands comme celui-là, il y en a 35 sur tout le campus. L'objectif, tester les 25 000 étudiants et les 5 000 employés. Chacun peut le faire une fois par semaine, c'est anonyme et gratuit. À l'origine de ce dispositif, Fabrice Bureau, professeur en médecine vétérinaire, il voulait éviter un foyer de contamination sur le campus.
Les étudiants, même s'ils sont jeunes et peu symptomatiques, craignent quand même de transmettre ça à leurs parents, leurs grands-parents.
Grande nouveauté, on mise sur le gargarisme pour des tests rapides et précis.
Le gargarisme donne de meilleurs résultats apparemment que la salive. On atteint des taux de sensibilité qui se rapprochent très fort de l'écouvillon nasopharyngé.
L'autre prouesse est que ces kits sont fabriqués dans la région de Liège. Du design aux entonnoirs en plastique en passant par les réactifs, la chaîne de production est 100% locale.
Jérémy Audouard.
7h08 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin à New York. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU se sont penchés hier sur la situation dans le Haut-Karabakh en appelant l'Arménie et l'Azerbaïdjan à respecter le cessez-le-feu censé être entré en vigueur dans la région.
Oui, une trêve sur le papier car dans les faits, les bombardements et les affrontements continuent. Un texte de l'ONU est à l'ouvrage, mais en attendant, l'enclave arménienne d'Azerbaïdjan a perdu plus de la moitié de ses 150 000 habitants. Beaucoup sont partis se réfugier dans l'agglomération d'Erevan, en Arménie. Certains sont tout de même restés à Goris, une petite ville de 15 000 habitants de l'autre côté de la frontière. C'est le reportage de l'envoyé spécial de France Culture sur place, Claude Brouillot.
Il a suffi du passage d'un avion de chasse au-dessus de la frontière, près de Goris, pour que les petits enfants de Gurlana se mettent à crier. Ils sont comme terrorisés depuis qu'ils ont vécu, il y a 3 semaines, les premiers bombardements de Martouni, au nord-est du Haut-Karabakh, leur ville d'origine proche de la ligne de front. Après avoir trouvé refuge, comme des centaines d'autres habitants de l'enclave arménienne, dans un hôtel de Goris, ils sont partis hier pour Yerevan, et c'est un nouveau déchirement pour Gurlana, qui s'éloigne encore un peu plus de son Haut-Karabakh natal.
Il y a eu beaucoup de bombardements. On est tous venus ici en espérant retourner vite là-bas. On est resté une 20aine de jours. Mes fils sont à la guerre, mes 2 fils sont là-bas. Maintenant, on part pour Yerevan.
Passé les premiers jours d'affrontement au début du mois, beaucoup d'Arméniens du Haut-Karabakh se disaient persuadés que l'offensive des Azerbaïdjanais comme les précédentes ne durerait pas. Aujourd'hui, beaucoup se sont rendus à l'évidence avec le conflit qui s'installe dans la durée. Ils craignent de ne pas revoir leur pays et leur maison avant longtemps.
Claude Brouillot, jamais autant de richesses n'a été créée en Chine qu'en 2020, et ce malgré une épidémie qui a ravagé l'économie mondiale. Le cabinet Hurun, qui établit un classement annuel, a ainsi révélé que le pays compte 257 milliardaires de plus qu'en 2019. L'économie numérique, chinoise en particulier, a atteint des niveaux inédits. Les entreprises de livraison de repas, par exemple, ou d'applications Internet ont quadruplé leur fortune pour certaines. La Chine, Eldorado du numérique, boude en revanche les entreprises françaises de la grande distribution. Ainsi, le groupe de la famille Muliez, Auchan, a annoncé hier qu'il se séparait de sa filiale chinoise, Sun Art, 484 hypermarchés sur tout le territoire chinois et 150 000 salariés. Et c'est un géant du numérique encore, le groupe de e-commerce Alibaba, qui se porte acquéreur. Adrien Toffolet.
Il y a d'abord eu des signaux faibles de désengagement. L'entrée au capital d'Alibaba en 2017, devenant actionnaire à parité de Sun Art avec le français, l'un apportant son savoir-faire du commerce physique, l'autre son expertise numérique. L'année dernière, Auchan a finalement abandonné la direction opérationnelle de la filiale, provoquant les premières rumeurs de départ. Ajouté à cela, malgré les investissements dans le pays, impossible pour Auchan de dégager un résultat positif. Le secteur est devenu très concurrentiel, distributeurs américains et surtout chinois, sans oublier le développement massif du commerce en ligne en Chine bien plus qu'ailleurs. Daniel Haber est économiste spécialiste des économies asiatiques.
Au fond, quand les hypermarchés français sont allés en Chine, la Chine était un pays sous-développé dans tous les domaines. C'est fini, c'est un pays hyper développé dans la plupart des domaines, y compris dans tout ce qui est le domaine des services. Donc finalement, on n'a plus rien à leur apporter de réel. Donc le repli est quelque chose de tout à fait logique. Il y a eu déjà le repli de Carrefour, non seulement de Chine, mais du Brésil et d'ailleurs. Donc voilà, c'est une évolution normale du modèle et une bonne sortie pour Auchan.
Une sortie à 3 milliards d'euros qui est bienvenue compte tenu du contexte. Le groupe, de façon générale, fait face à l'évolution du modèle de l'hypermarché qui a perdu de son attractivité. D'ailleurs, Auchan est en crise, a cruellement besoin de fonds pour se désendetter et prévoit de se réinventer en supprimant des emplois et des points de vente. Et puis, il y a le contexte international, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui entraîne des conséquences pour tous les acteurs occidentaux présents là-bas. Et enfin, la crise du coronavirus et les perspectives incertaines qu'elle fait peser sur l'économie mondiale.
Le temps de ce mardi pour finir, venteux sur de nombreuses régions. La tempête Barbara atteint en ce moment les côtes du sud-ouest. 4 départements sont placés en vigilance orange au vent violent. Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et le Tarn. Sur l'est du pays, le temps sera plus sec. Les températures comptées cet après-midi de 14 à 22 degrés.
Merci Anne-Laure Chouin. 7h12 sur France Culture. Dans quelques instants, on va évoquer le couvre-feu face à la pandémie. Que nous enseigne l'expérience guyanaise?